Alors cette année, c'est une grande joie et un honneur d'accueillir le professeur René Roussillon, que tout le monde connaît, qui je crois est un des penseurs français de la psychanalyse les plus créatifs actuellement. René, tu es essentiellement un psychanalyste d'adulte, je crois que tu t'occupes aussi d'adolescents. Tu n'es pas un pédopsychiatre, tu n'es pas un psychanalyste d'enfant, à ma connaissance, je crois, tu me diras si je me trompe, mais tu tiens le plus grand compte de l'archaïque, tu tiens le plus grand compte de l'infantile. Et c'est un, j'allais dire, un vrai archaïque, c'est un vrai infantile. On croirait que tu as passé beaucoup de temps à observer les enfants, ou à traiter les enfants, et je crois que c'est les enfants dans l'adulte que tu observes et que tu traites. Et ça, c'est une rencontre qui est extrêmement importante, très féconde et réciproquement féconde pour la psychanalyse de l'enfant, bien sûr, de voir qu'est-ce que ça devient, l'enfant dans l'adulte, mais aussi, et c'est un de nos thèmes de réflexion très, très habituels, aussi pour la psychanalyse de l'adulte. Moi, je suis convaincu que sans la psychanalyse d'enfant, la psychanalyse se trouve gravement amputée. Alors là, je crois qu'on retrouve une synthèse de l'ensemble du champ psychanalytique et que c'est embarqué d'une pierre blanche. Avant de passer la parole à René Roussillon, je la passe à Bernard Boss.
Très brièvement, d'abord pour souhaiter évidemment la bienvenue à chacun, à chacune, à l'équerre. Dans cet amphi high-tech, nous n'avons ni l'eau courante ni le café. Donc moi, grand plaisir aussi d'accueillir René Roussillon, évidemment, à Paris, et notamment à Necker. Didier vient de dire à quel point René Roussillon occupe une place absolument éminente dans le paysage psychanalytique français et international, une place qui est liée à sa créativité, à sa lecture approfondie de Freud, de Winnicott et d'autres. Une lecture, effectivement, qui est novatrice, parce qu'elle nous attire notre attention sur des points auxquels parfois on n'avait pas suffisamment prêté d'attention, justement. Voilà, en ce qui me concerne, moi j'ai eu la chance depuis quelques années d'avoir un dialogue absolument passionnant avec René Roussillon. Alors au fil des rencontres dans les congrès, ici ou là, en France, parfois au bout du monde, on a un petit peu les mêmes circuits en Amérique du Sud, mais il a un très gros avantage sur moi, je fais quelques confidences, c'est un danseur hors pair de tango, ce qui en Argentine évidemment a de l'importance, et moi pas. Voilà, donc c'est comme ça. Et on a un petit peu sinon les mêmes circuits. Et de loin en loin, on avait effectivement
tango et clé de vie.
Parlé de choses et d'autres. Et j'avais, comme Didier Houzel l'a dit tout à l'heure, été frappé effectivement par des convergences entre sa pensée qui vient d'une clinique avec les adultes et les adolescents, et puis la mienne qui vient d'une pratique plutôt avec les jeunes enfants, voire avec les très jeunes enfants. Et des convergences évidemment qui sont rassérénantes. Quand on les rencontre. Hein. Il y a très très longtemps, j'avais eu ce même sentiment de convergence, toute proportion gardée évidemment, à propos des dépressions maternelles, ce qu'en disait Léon Kressler en partant du bébé, ce qu'en disait Grille en partant de la dépression de transfert, et voilà sur des points concernant la croissance et la maturation psychique des enfants, il me semble qu'il y a aussi une convergence de ce type entre ces travaux et ceux d'équipe ici à Paris. Voilà, d'où notre livre récent sur la naissance de l'objet, qui pour moi a été vraiment un moment d'intense plaisir intellectuel, d'échange, de pousser l'autre un petit peu jusqu'au bout de ses retranchements, et voilà, dans un climat de confiance et d'amitié dont je le remercie très très sincèrement. Je m'arrête là, mais René, vraiment un grand merci pour ta disponibilité à l'égard de tout ça, pour ta façon de voir extrêmement vivante et novatrice la psychanalyse, et effectivement, comme le disait Didier tout à l'heure, d'y intégrer toute ta curiosité pour les temps précoces de la vie psychique, de la croissance et de la maturation psychique, et ta façon que tu as de nous inciter non seulement à écouter le discours verbal aussi tout ce que tu appelles le langage du corps et de l'acte, qui est si important pour les bébés, les adolescents, notamment. Voilà, la parole est à toi.
Bon, merci Didier, merci Bernard. Peut-être juste un petit mot pour la question de ma pratique avec l'enfance et la première enfance. J'ai une pratique de père, de père bébé, et c'est quand même quelque chose qui... c'est pas une pratique clinique, mais c'est une pratique marquante. Et je me souviens avec mes différents enfants combien mon rapport, mes représentations de ce qui se passait chez les bébés. Mes deux premiers enfants, ma première fille était plutôt spitzienne. Elle avait l'angoisse de l'étranger, des trucs comme ça. Et puis, au fur et à mesure que les enfants arrivaient et passaient, et que entre-temps, je m'étais allongé, j'avais produit tout un reparcours de mon propre rapport à mon histoire, ils ont été de plus en plus, alors après ils ont été winnicottiens, et alors maintenant ils sont interaction précoce, intersubjectivité, ils ont un côté très Lartel poussé, enfin bref, il y a des choses comme ça. Alors ça c'est une première pratique. J'ai quand même eu aussi une pratique de la psychothérapie d'enfants. On avait dans les années 70, on était psychologue itinérant, c'est-à-dire qu'il y avait tout un pan de la pédopsie qui était très peu travaillé, c'était tout ce qui était en rapport avec les écoles privées. Et alors, on se déplaçait dans les différents lieux d'écoles privées, on travaillait à l'école même, et on découvrait parfois des enfants psychotiques qui traînaient comme ça, et dont il fallait s'occuper. Voilà, donc j'ai quand même eu cette pratique-là, et puis surtout, ce que j'ai quand même énormément maintenant, c'est toute une direction de travaux autour de ces pratiques. Et on a à Lyon un gros centre de recherche autour de toutes les cliniques de l'extrême. La clinique de l'extrême, c'est les grands criminels, c'est les SDF, c'est tous ces gens qui ont non seulement une souffrance narcissique, ça c'est relativement bien partagé par tout le monde, mais où ces souffrances narcissiques débouchent tout de suite sur des menaces concernant la structuration même de l'identité. Ce qui fait que on est inévitablement conduit à reprendre une question. Alors on peut dire que c'est celle de l'archaïque, c'est vrai, mais cet archaïque-là, il traverse la vie d'un certain nombre de gens, et peut-être qu'il traverse la vie de tout le monde. Et là, c'est pas simplement un archaïque, mais c'est la problématique de la différenciation essentielle entre le moi et le non-moi, et ces différences-là, eh bien, elles s'approfondit tout au long de l'histoire, donc c'est pour ça qu'elle est transversale. Une autre des choses aussi qui fait qu'on est conduit à travailler sur la dimension de l'archaïque, c'est que ça réfère à un certain nombre d'expériences qui ont été vécues avant que le moi ait organisé autre chose qu'une temporalité rythmique élémentaire. C'est-à-dire que les expériences subjectives ne sont pas traversées avec un moi qui a organisé véritablement une historicité chronologique. Alors, une des particularités, vous savez, on dit par exemple l'inconscient ne connaît pas le temps. Moi, je ne suis pas sûr que l'inconscient ne connaisse pas le temps. Mais par contre, je pense qu'il y a un certain nombre d'expériences qui ont été vécues dans un temps avant que le temps soit organisé, et je pense que ça les marque, ces expériences-là. Et ce qui fait qu'elles sont... qu'elles restent telles qu'elles-mêmes. Alors, il y a un certain nombre de choses aussi de la relation précoce avec la mère qui vont traverser toute l'histoire, parce que ça a à faire avec un certain nombre de particularités, on va dire, du fonctionnement structurel de la mère. Autrement dit, c'est des premiers temps, mais c'est aussi de tout temps, d'une certaine manière. Enfin, le dernier élément qui fait qu'on est conduit à se pencher là-dessus, alors ça c'est une chose étrange, parce que c'est très clairement indiqué par Freud, et en même temps, c'est comme si c'était très peu lu. Peut-être parce que ça va à l'encontre d'un certain nombre de positions idéologiques à l'égard de la classe dominante de la psychanalyse. Et ça concerne... c'est le dernier mot historique de Freud sur la question de la compulsion à la répétition. C'est vrai que ce qu'on aime bien du côté de la compulsion à la répétition, alors en particulier à Paris, en particulier avec
les dramatiques romantiques, c'est l'idée que c'est la pulsion de mort, etc. Freud, lui, il se comporte en clinicien, donc la pulsion de mort, c'est une position. Et c'est une position qui continue de travailler chez lui. Et quand il est, alors là, pour le coup, aux portes de la mort, quand il arrive à Londres, il griffonne un peu quelques petits aphorismes comme ça qui sont, on pourrait dire, le dernier lettre testamentaire qu'il nous laisse et qui sont autant d'os sur lesquels on pourrait penser que la psychanalyse contemporaine aurait à se pencher. Alors il y a comme ça un certain nombre de formules et il y en a une en particulier où on peut dire qu'il revient sur la question de la contrainte de répétition, de la compulsion de répétition. Et il dit la chose suivante, il dit, c'est quand même tout à fait étrange que les expériences qui tendent à se répéter le plus sont les expériences les plus précoces, contrairement à ce qui se passe par la suite. Donc, c'est une nouvelle hypothèse sur la compulsion de répétition. C'est-à-dire, se répètent ou tendent à se répéter compulsivement les expériences les plus précoces. Et il ajoute quelque chose, qui va sûrement faire plaisir au monsieur du concept d'enveloppe psychique et de la fonction contenante. Il met entre parenthèses, avec la manière dont il rédige ces petits mots comme ça, explication, deux points, faiblesse de la synthèse. Ce qui veut dire qu'il indique à ce moment-là que c'est parce que ces expériences n'ont pas été suffisamment intégrées qu'elles vont tendre à se répéter compulsivement. Alors, c'est quand même... quelque chose qui est tout à fait fondamental, ça. Et c'est une hypothèse clinique. On est loin des grandes spéculations sur la pulsion de mort, l'apoptose, le meurtre cellulaire et les choses comme ça. On est au plus près de nos préoccupations cliniques et de la place effectivement de l'archaïque ou de la place de tout ce qui a échappé à la fonction de synthèse. Alors la fonction de synthèse, la faiblesse de la synthèse, effectivement, elle est là chez les bébés parce que... leur moi, leur subjectivité n'a pas encore une organisation telle qu'ils puissent arriver à rassembler par eux-mêmes tous les éléments de la nébuleuse subjective de leurs états premiers. Ce qui veut dire aussi que la synthèse, elle est portée nécessairement par l'environnement à cette époque-là. Alors, fonction alpha du côté de Bion, j'aime bien Bion, hein, en fait. C'est intéressant le dialogue, le non-dialogue Winnicott-Bion. C'est deux personnes qui disent à peu près la même chose dans des langages différents, mais qui ne se parlent jamais. Bon. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ne se parlent pas, ça je ne sais pas. Mais peut-être parce qu'il y a des moments donnés, quand on a une trop grande proximité, il ne faut pas parler à l'autre, parce qu'on risque de ne plus savoir si on est lui ou soi. À ce moment-là, effectivement, ne pas lui parler, c'est une solution, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais enfin, c'est comme ça. Ceci étant, quand on regarde les similitudes entre un certain nombre d'aspects de la pensée de Bion, on reviendra dessus tout à l'heure, et un certain nombre d'aspects de la pensée de Winnicott, c'est vraiment saisissant. Hein. C'est saisissant, et en même temps, ce sont des personnalités différentes. C'est très bien qu'il y ait un Bion pour Didier Houzel, et un Roussillon pour... et un... Si je gonfle trop et que j'explose, le signal est légèrement avant pour que je puisse me modérer. C'est très bien aussi parce que peut-être qu'on a besoin d'une polyphonie. On ne fonctionne pas tous nécessairement avec les mêmes chaînes de fonctionnement. Il y a des langages qui parlent plus à d'autres et c'est bien qu'une même chose soit dite en plusieurs langages. Parce que ça permet d'avoir des schémas de pensée qui finalement sont les schémas dont nous avons le plus besoin en clinique, mais dans un langage qui nous correspond mieux. Et ça, je pense que ça, c'est important de ce point de vue-là. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous disais tout ça. C'était un écho, oui. Oui, c'est quand même pour dire que cette question donc, du rassemblement des états subjectifs premiers... c'est quelque chose qui, en effet, va ouvrir la question de la place de l'environnement. S'il y a une faiblesse de la synthèse chez le bébé, à ce moment-là, la synthèse, elle doit être portée par l'environnement. Et ça ouvre l'immense question de la fonction de l'environnement, et ça ouvre l'immense question de toutes ces cliniques où, d'une certaine manière, il y a une faiblesse de la synthèse, et de toutes ces cliniques qui, donc, d'une certaine manière, impliquent une pensée, enfin, l'importance de l'environnement actuel pour pallier en quelque sorte à ces faiblesses de la synthèse Et par ailleurs, non seulement l'environnement actuel, mais toute une pensée sur les faillites de l'environnement historique et les conséquences des faillites de l'environnement historique dans la manière d'occuper cette fonction de synthèse. Freud donne une petite indication supplémentaire. Bernard l'a évoqué tout à l'heure, tout le développement actuellement qu'on essaye de promouvoir à Lyon, de toute une réflexion sur l'ensemble des langages qui ne sont pas le langage verbal. Alors c'est pas simplement parce que j'adore la danse que, et les rythmes et la musique et toutes ces choses-là, et donc le rapport au corps que ça suppose. C'est aussi parce que je crois que c'est un impératif absolu de notre clinique actuelle. Une large partie de notre clinique est une... Alors, la clinique de l'extrême, mais pas que la clinique de l'extrême, même la clinique de l'enfant. Est-ce qu'on peut avoir véritablement une clinique de l'enfant? La clinique du bébé, j'en parle pas, c'est tellement criant que c'est évident. Mais la clinique, peut-on avoir une clinique de l'enfant qui fasse l'impasse sur le langage du corps? Sur le langage de la mimique, de la gestuelle, de la posture, sur toute la sensorimotricité de l'enfant? Est-ce que c'est envisageable? Pourquoi est-ce que toutes ces choses-là sont tenues dans une espèce d'ostracisme où, quand on dit le langage, on suppose que c'est le langage verbal, sans avoir même besoin de le préciser, comme si c'était le seul, alors que, et qu'ensuite, alors, par voie de conséquence, il y a tout ce qui est. Il y a un refoulement de toute la question du corps, dans une très large partie de la pensée psychanalytique au profit des signifiants et puis ils sont abstraits. Alors ça rejoint la question. Mais Bion n'est pas quelqu'un qui néglige le corps. Hein. C'est dans sa grille que là, à un moment donné, on va du côté de l'abstraction. Mais bon, après tout. Mais donc c'est et là on voit comment. Alors on voit aussi tout le croisement de la problématique et qui est une sacrée problématique. Le croisement de la problématique de la psychanalyse et de la clinique psychanalytique avec l'idéologie et certaines positions. Alors ça a des effets qui sont multiples. Bon, alors conséquence, les psychanalystes et les psys sont des gens qui détestent l'acte, donc on va développer le concept de passage à l'acte, comme si la motricité, l'action n'était pas aussi langagière, comme si ce n'était pas aussi signifiant. Alors, dès que vous travaillez avec des criminels, avec des délinquants, vous apercevez que n'avoir qu'une théorie du passage à l'acte, ça vous condamne à quelque chose qui est de ne pas supporter ces gens. Parce qu'ils sont tout le temps, ils font tout le temps pas ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps, ils déchargent là où devraient mentaliser, avoir des mots fantasmes, des représentations, être du côté de la sublimation. Ils font rien de tout ça. Et alors, comment on peut maintenir une écoute bienveillante dans ces conditions-là, hein? C'est pas possible. Donc, du côté de l'affect, alors l'affect, la tripière, hein, comme certains ont appelé Melanie Klein, tous ces gens qui ont une espèce de rejet de toutes les dimensions affectives, il y a un langage de l'affect, il y a une communication qui se joue par l'affect, et cette communication-là, elle est absolument fondamentale. C'est le discours vivant, comme l'appelait André Green, mais c'est ce qui fait que le discours est vivant. C'est pas simplement le discours vivant. C'est ce qui donne de la vie, effectivement, à notre mode d'expressivité. Voilà, bon, ça c'était en guise d'intro. Voilà, alors j'en viens un peu maintenant, si vous voulez, au propos du jour, qui est la question de la survivance. C'est, quand on essaye de regarder un petit peu comme ça, bon, c'est vrai que Winnicott, il est à la mode. Là, Bernard soulignait tout à l'heure que le prochain colloque sur Winnicott est un colloque qui va avoir beaucoup de succès. Là, je pars la semaine prochaine pour le Brésil pour un autre colloque sur Winnicott à Porto Alegre. C'est aussi, même en Amérique du Sud, un grand succès. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. Ce succès est un peu suspect. C'est un peu suspect. Alors c'est vrai que Winnicott, quand on le lit comme ça, ce qu'il a de bien, c'est qu'on le comprend. Enfin, plutôt, on croit qu'on le comprend. Après, quand on regarde effectivement ce que ça donne, c'est-à-dire jusqu'où il est véritablement pris en compte dans la pratique, là, c'est un peu plus décevant. Alors, il y a des choses qui marchent très bien. Par exemple, l'objet transitionnel, la transitionnalité. Mais après, c'est comme si c'était menacé d'être abattu sur la question du doudou. Comme si c'était ça la transitionnalité, comme si ce qu'il introduisait avec cette question-là, ça se bornait en quelque sorte à avoir repéré le fait qu'il fallait que les petits bonhommes et les petites bonnes femmes qu'on laisse leur doudou se salir et qu'on les prive pas de ça. Alors, donc, le concept de survivance de l'objet, c'est pareil. C'est un concept qui a eu un certain succès. Alors, moi, mes étudiants disent très volontiers, alors là, il a fallu survivre, d'accord. Bon. Après, quand on essaie de creuser ce que ça veut dire survivre, là aussi, il y a une certaine déception. Bon, enfin, donc, ça veut dire que Winnicott, il est à la fois facile d'accès, on le lit bien, il soigne, quand on lit, il fait du bien, cet homme, hein, c'est tout à fait extraordinaire. Moi, je me souviens, entre ma première et ma deuxième analyse, j'ai fait une lecture approfondie de Winnicott, ça a révolutionné mon rapport à ma première analyse. Hein, et j'en ai recommencé une deuxième. Mais, donc, il soigne, il fait du bien, il ouvre l'idée que des choses qu'on croyait, comme ça, chevillées à notre corps, à notre histoire, qu'on sent des points de mauvaiseté, comme ça, radicales, qu'on sentait en soi, que peut-être c'est un peu plus compliqué que simplement quelque chose qu'on aurait amené en décembre, et que ça mérite aussi à être mis en chantier dans notre rapport avec... Enfin, bref, il ouvre. Et ça, c'est bien. Mais, du coup, cette facilité cache une complexité. Et du coup, ça cache un deuxième niveau de complexité, c'est que du coup, on travaille peu ou on ne travaille pas. Et le malheur d'un Freud, le malheur d'un Winnicott, c'est qu'on s'arrête à Freud ou qu'on s'arrête à Winnicott. C'est qu'on fétichise Freud ou qu'on fétichise Winnicott. C'est là qu'on les tue le plus sûrement. Hein. C'est-à-dire, sans faire ce qui est notre boulot à nous, c'est-à-dire s'appuyer sur ce qu'ils nous ont apporté pour continuer le travail. Bien évident, Winnicott, il est mort en 1969. Vous avez vu que ça fait quand même 40 ans. On a l'impression qu'il est quasiment encore vivant. Hein. Mais c'est depuis 40 ans quelles ont été les contributions post-winnicottiennes dans la ligne winnicottienne qui sont véritablement conséquentes. Ben faites le compte, vous allez voir qu'il n'y en a pas énormément et que la plupart du temps, on se borne à rappeler ce qu'il a dit à propos de telle ou telle chose. On fait la même chose pour Freud. Et pas de tout Freud et pas tout de Winnicott, effectivement. Donc moi, c'est pas mon parti pris. Mon parti pris, c'est plutôt de me dire qu'il y a des choses précieuses, mais que notre fonction et notre rôle, c'est de continuer de les faire travailler, et y compris d'en approfondir les conséquences. Alors, bon, le grand concept, je le disais tout à l'heure, le premier concept qui a beaucoup de succès de Winnicott, c'est le concept d'objet transitionnel, et le modèle qui est derrière, c'est-à-dire l'objet trouvé-créé. Par exemple, si on regarde ce concept-là, c'est comme si personne s'avisait véritablement et tirait toutes les conséquences, ou peu de gens, disons, pas personne, mais peu de gens s'avisaient et tiraient toutes les conséquences, que ce concept-là, il est proprement révolutionnaire. C'est-à-dire que, en gros, quand on regarde avant la position de Winnicott, ça bascule un peu du côté de la fin des textes de Freud, mais on a une espèce d'opposition, qui est l'opposition courante, ou bien je perçois, ou bien j'hallucine. Et les deux choses sont comme en antagonisme. Et d'ailleurs, bon, par exemple, une pensée aussi forte et conséquente que celle de Green repose sur une hypothèse de ce genre-là. Et la place qu'il donne à l'hallucination négative, par exemple, dans la pensée de Green, repose sur l'idée que si je veux halluciner positivement, il faut que je commence par effacer quelque chose de la perception. Donc j'hallucine négativement un élément de la réalité extérieure, et dans le creux que j'ai ainsi fait, j'hallucine positivement. Autrement dit, on est de nouveau, on est dans cette opposition-là. Hein. Et la place qu'il donne à l'hallucination négative, enfin au moins en partie dans certains de ses travaux, repose sur cette opposition-là. Si vous lisez les articles de Freud de 1915, des essais de métapsychologie, vous allez voir que toute la pensée de Freud de cette époque, c'est ou bien j'hallucine, ou bien je perçois. Dans une large partie des pratiques de la psychiatrie contemporaine, on est devant le même modèle. Quand on dit, par exemple, en psychanalyse, on entend ça dans les sociétés de psychanalyse, « je l'ai reçu en face à face pour qu'il y ait de la perception », on est exactement dans le même modèle. C'est-à-dire comme si, quand il y avait de la perception, alors il n'y allait pas y avoir de l'hallucination. Donc on veut régresser, on met les gens allongés, comme ça ils ne perçoivent pas, comme ça ils hallucinent, ça on est dans le modèle du rêve, et en avant dit-il, et ça part. Or, ce que l'hypothèse que nous propose Winnicott, c'est une hypothèse, alors là vraiment, que toute la neurobiologie et les neurosciences actuelles vont confirmer, c'est que ce modèle est un modèle faux. La perception est faite de plein d'hallucinations. Et le problème, c'est pas où on hallucine ou on perçoit. Le problème de la psychose, c'est pas l'hallucination, c'est la discordance entre ce que le sujet hallucine et le contexte de ce qui est communément partagé. C'est pas sur le processus hallucinatoire des patients psychotiques que le problème se pose. Alors, il se pose aussi là-dessus, bien sûr, en partie. Mais majoritairement, d'ailleurs, moi, je signale, j'ai beaucoup travaillé avec des patients psychotiques, je les vois rarement se cogner dans les tables, rentrer dans les murs, ou faire des choses comme ça. Ils perçoivent très bien, les patients. C'est pas là qu'est le problème. C'est des approximations de notre manière de dire qui fait qu'on dit « Ah, il y a un déni de perception ». C'est pas un délit de perception, c'est autre chose qui se passe. Alors donc, coïncidence, dit Winnicott, de l'hallucination et de la perception. Ça a des conséquences. Toute une partie de la métapsychologie contemporaine est celle qui est très marquée de ces espèces d'idéologies un peu négativistes, va se fonder sur l'idée que les concepts fondamentaux, c'est l'absence, c'est le manque, c'est le... le manque perceptif, absence perceptive, c'est négatif, etc. Et ça repose sur le fait que pour bien halluciner, il ne faut pas percevoir. Donc, s'il n'y a pas de perception, alors on va avoir des hallucinations, on va avoir des fantasmes, on va avoir une vie fantasmatique. Ça repose sur cette hypothèse-là. Et ben oui, ce qui veut dire donc qu'il y a un privilège tout à fait considérable qui va être accordé à ces modes de fonctionnement, à tel point qu'il y a des gens qui sont absolument persuadés que la symbolisation repose sur l'absence. Repose uniquement sur l'absence. Donc alors, vous voyez toutes les conséquences que ça va avoir au niveau de la pratique. Ça va avoir des conséquences considérables, c'est-à-dire qu'on va beaucoup se taire, on va beaucoup s'absenter, on va beaucoup faire toute une série de choses pour tenter de creuser cette absence, pour essayer de privilégier le développement de la symbolisation. Bon. Ben, ce que nous dit Winnicott, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est que ça ne marche pas comme ça, ou plutôt ça ne marche pas d'abord comme ça. Peut-être que dans un deuxième temps, lorsque des tas de choses sont structurées, alors, en effet, ces choses-là prennent un sens. Et on peut dire que si on veut que la psychanalyse continue d'évoluer, que la clinique psychanalytique continue d'évoluer et survive bien au XXIe siècle, eh bien, il devient urgent de développer non pas simplement une métapsychologie de l'absence ou une métapsychologie de la présence, mais une métapsychologie de la dialectique présence-absence. Qu'est-ce qui est présent dans l'absence? Qu'est-ce qui est absent dans la présence? Alors, s'il y a une coïncidence de la perception et de l'hallucination, et c'est un des enjeux du trouver créé, c'est en ceci que le trouver créé, c'est quelque chose qui fonde, alors non seulement la naissance de l'objet, mais la naissance même de la symbolisation. Le symbolon, c'est la réunion de deux morceaux qui, en eux-mêmes, n'ont que peu de valeur, et ce qui donne de la valeur symbolique, ce qui fait émerger la symbolisation, c'est précisément cette réunion. Eh bien, cette réunion, cette coïncidence, hein, ces deux choses qui sont incidentes en même temps, eh bien, c'est quand coïncide un élément perceptif et un élément hallucinatoire. Et c'est de cette rencontre-là, enfin, que se symbolise d'une certaine manière, c'est se crée le symbole même de la rencontre. Donc vous voyez que cette idée du trouver-créé de Winnicott, c'est une idée qui a une incidence métapsychologique tout à fait considérable. Alors, Je le dis parce que c'est quand même un des concepts qu'on a beaucoup repris de lui et à qui on a donné une place assez fondamentale. Alors, et on voit que derrière ce concept-là implique toute une série d'évolutions, de mutations paradigmatiques pour la psychanalyse. Et moi, je crois que toutes nos cliniques de l'extrême, nos cliniques du bébé, que toutes ces cliniques-là sont des cliniques qui imposent en quelque sorte cette évolution de notre métapsychologie. Bon, Freud nous a laissé des choses absolument extraordinaires, mais qui concernent beaucoup les états névrotiques. Quand on veut aller du côté des états limites, des états psychotiques, des états archaïques, et peut-être qu'il y a besoin aussi que cet outil qui nous a légué, on continue de le faire travailler, il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de continuer de le faire travailler et d'intégrer toute une série d'apports précisément pour le faire évoluer. Alors, là on était du côté d'un concept qui est tout à fait essentiel chez Winnicott, c'est-à-dire le concept de la créativité. Et on voit que pour que la créativité, qui est une créativité potentielle, qui est la créativité qui est issue du fait que nous naissons avec, alors on va parler de Lyon, avec des préconceptions, si on parle de Winnicott, avec des potentiels, que pour que ces potentiels deviennent des sources de créativité, pour que les préconceptions deviennent des conceptions, deviennent des concepts, alimentent un appareil à penser les pensées, pour que ceci se produise, eh bien, il faut que ces préconceptions, ce créable, cette potentialité, trouvent dans l'environnement des éléments complémentaires qui vont lui permettre de s'actualiser, de devenir une expérience, d'être mis au présent du moi, dit Winnicott à un moment donné, et donc enclenche un processus d'appropriation. C'est un drame de l'être humain, c'est que ce que nous avons en héritage biologique, si nous voulons effectivement le posséder, nous l'approprier, eh bien il faut en même temps que cela coïncide avec quelque chose que nous allons trouver dans l'environnement qui va nous être donné. Et ensuite, il va y avoir un deuxième processus qui va être un processus d'appropriation. Du côté de la créativité, on a là un apport qui est tout à fait essentiel chez Winnicott. Et sauf qu'il ne s'arrête pas à la question de la créativité. Ça serait déjà beaucoup si on lui devait déjà ça. Mais on lui doit plus, c'est qu'il nous a aussi apporté un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait essentiels concernant la destructivité. Et là, c'est un de ses points de dialogue avec Melanie Klein, et d'une manière générale avec la position kleinienne, qu'on voit très bien dans le recueil de textes qui s'appelle la crainte de l'effondrement et autres textes, où il y a toute une série de dialogues à propos de l'envie en particulier et des sources fondamentales de l'envie. Donc c'est ce sur quoi je vous propose qu'on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire cet apport de Winnicott concernant la question de la destructivité. En gros, avant Winnicott, par exemple l'article de Ferenczi 1913 qui concerne la découverte de la naissance du sens de la réalité extérieure, l'idée est la suivante: la réalité naît dans la frustration. C'est parce qu'on n'a pas quelque chose qu'on découvre qu'effectivement cette chose-là nous manque et qu'on découvre qu'elle existe indépendamment de nous, donc indépendamment de toute puissance. Et donc c'est une première interprétation de l'objet né dans la haine, aphorisme qu'on doit à Freud. Et la haine provient de la frustration. Et alors vous avez aussi derrière toute une théorie de la conception du processus analytique qui va se déduire de ça, hein. C'est-à-dire frustration, agression, régression. Quand vous regardez les manuels des années 1960-70, vous avez ce cycle-là qui est mis en exergue, et donc ça va donner naissance à un mode de présence du psychanalyste très silencieux, un mode de présence du psychanalyste très dérobé tout le temps, enfin, hein, frustration, etc. Frustration en général, on ne va pas beaucoup plus avant. Alors on ne se pose pas la question de savoir si ce qu'on frustre, ce sont des besoins ou ce sont des désirs, par exemple. La question n'est pas posée. On frustre. Bon, on frustre, quand on est suffisamment frustré, ben, on va enfin buter. Donc la réalité, c'est ce sur quoi on bute, etc. Voilà. Ça, c'est la position classique. Alors, cette position classique, elle fait problème, évidemment. Elle fait évidemment problème à partir du moment où, je veux dire, elle ne fait pas problème quand vous avez des gosses qui vont bien, quand vous avez des adultes qui vont bien, parce qu'effectivement, ça marche avec eux. Mais dès que vous avez des délinquants, essayez de les frustrer, vous allez voir ce que ça va donner. Et puis, alors, les patients psychotiques, alors là, on peut y aller, la frustration, ils connaissent. Ils ne tolèrent pas, mais la question, c'est pour savoir, c'est qu'est-ce qui se passe pour qu'ils ne tolèrent pas. En même temps, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, ça ne les fait pas évoluer. C'est pas ça qui les fait évoluer. C'est pas parce qu'ils ont été frustrés que d'un seul coup, ils commencent à découvrir le plus de réalité. Ils se soumettent à l'autre, mais ça, c'est autre chose. C'est la reddition, c'est un moi qui lâche, qui s'abandonne. C'est pas un accroissement, un développement de leur capacité. Donc, l'état des lieux. Au moment où Winnicott reprend le problème, c'est en gros celui-là. C'est-à-dire, l'objet naît dans la haine et naît de. C'est l'absence de l'objet qui va développer cette frustration, cette agression. Et la position de Winnicott va être d'introduire... Alors, on ne peut pas dire que sa position s'oppose complètement à cette proposition de Freud. Mais on peut dire que, par contre, ce que propose Winnicott va complexifier le problème. Et bien sûr, Winnicott est d'accord pour dire, mais ça c'est notre expérience clinique, qu'il se produit quelque chose dans l'accroissement de notre sens de la réalité dans les expériences de destructivité. Mais ce que va introduire Winnicott, et c'est là que la question de la survivance va se poser, c'est que ce n'est pas un effet direct de la destructivité qui va produire notre capacité à rentrer en contact avec la réalité. Ce qui va produire notre capacité de rentrer en contact avec la réalité, ce n'est pas simplement la destructivité, c'est que quelque chose résiste à la destructivité. Et autrement dit, à ce moment-là, on n'a plus simplement cette idée que c'est à partir, enfin que le schéma est je rencontre la réalité et une fois que j'ai rencontré la réalité, je développe mon agressivité, etc. Mais sur ce fond-là, ce que dit Winnicott, c'est non, c'est parce que quelque chose va survivre à ma destructivité que la réalité va petit à petit se fonder. Alors, en gros, le schéma que propose Winnicott est un schéma qui repose sur différents temps. Bon. Le premier temps, c'est le temps où... je vais essayer de reprendre le modèle à l'origine, et puis après, j'essaierai de vous proposer toute une série de développements. J'ai du temps. Les développements que je vais proposer, je vous les annonce, comme ça vous les repérerez plus facilement, comme ça, ce qui me permettra de passer facilement de l'un à l'autre. Winnicott propose un premier modèle, et il le propose surtout autour de la question de la découverte, en quelque sorte, de l'objectivité de l'objet, c'est-à-dire du fait que l'objet est un autre sujet. Donc, la première survivance va avoir comme effet de faire en sorte que l'enfant va découvrir qu'il n'est pas le créateur de sa propre satisfaction. Et Winnicott va développer essentiellement cet aspect-là. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce schéma de la survivance de l'objet est un schéma qui a une importance beaucoup plus considérable et qu'on va retrouver dans toute une série de circonstances, non seulement chez le bébé, ça c'est l'exemple que prend Winnicott, mais aussi au moment du développement de l'auto-érotisme, dans la gestion du conflit d'ambivalence et dans toute une série de circonstances qui concernent l'organisation même de la conflictualité. Donc autrement dit, la conflictualité infantile est obéit peut-être aussi dans sa régulation à ce modèle. Et puis j'essaierai aussi, selon le temps qui me restera, de développer aussi un certain nombre de choses sur les formes, alors beaucoup plus tardives, de la question de la survivance de l'objet, telle qu'on va les rencontrer dans l'adolescence, et j'essaierai de réfléchir avec vous sur la question assez centrale de l'introjection de la sexualité, de la pulsion à l'adolescence, et en particulier de l'impact de toutes les éprouvées orgasmiques sur l'organisation du moi, et l'impact de ces éprouvées orgasmiques en termes de savoir comment le moi survit, on va le dire alors à la manière du langage courant, comment le moi survit à la petite mort, hein, comment le moi survit à l'orgasme, et puis aussi comment l'adolescent va mettre à l'épreuve la question de ce qui survit de ses conceptions d'enfant pour créer son monde adulte, ce qui survit de ses illusions d'enfant sur les adultes, et on va avoir alors là toute une série de choses de la mise à l'épreuve organique de soi, du monde, des adultes qui caractérise une large partie de la crise adolescente. Voilà, donc en gros, hein, on va prendre ces trois temps. Alors, premier temps, le modèle de Winnicott concernant la toute première enfance, c'est-à-dire l'expérience qui est une expérience prototypique. Le premier temps, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par rappeler le trouver-créer, le premier temps, dit Winnicott, c'est un temps dans lequel l'adaptation de l'environnement est suffisamment importante pour que toutes les fois que l'enfant est en train d'être dans un manque, par exemple, du sein ou de l'objet, qu'il est donc qu'il hallucine pour tenter de pallier à son sentiment de manque, que toutes les fois qu'il fait ça, la préoccupation maternelle primaire et les aptitudes de la mère sont telles qu'elle pressent en quelque sorte ce processus chez l'enfant et qu'elle vient, Winnicott le dit à peu près comme ça, placer le sein ou placer sa réponse là où le bébé est en mesure de pouvoir le créer. Donc, ce que dit Winnicott, c'est qu'il y a donc un processus hallucinatoire chez le bébé et un mouvement d'adaptation de la mère qui fait qu'elle transforme l'hallucination du bébé par son mode de présence, par sa réponse, en quelque chose qui fait que ça n'est plus une hallucination, puisque le sein que le bébé crée, il le trouve en même temps, et que le fait de le trouver bien, vient satisfaire le mouvement pulsionnel qui était impliqué derrière. Autrement dit, la réponse maternelle permet que l'hallucination première se transmute en quelque chose qui est une illusion d'auto-satisfaction. Et toute la place que Winnicott va donner à ce qu'on voit apparaître à différentes reprises chez lui comme le champ de la toute-puissance du sujet, etc., c'est réfère à ça. Et on peut dire que c'est aussi la modification, et c'est relativement intéressant et important, la modification que Winnicott propose de la conception du narcissisme primaire. Le narcissisme primaire, il n'est pas sans objet. Le narcissisme primaire porte sur l'illusion d'une autosatisfaction. Si le sein que j'hallucine, je le trouve, alors j'ai l'illusion que le sein que j'ai trouvé, c'est parce que je l'ai halluciné que je l'ai trouvé. Et vous voyez que de l'un à l'autre, ce qui est là présent, eh bien, c'est effectivement la possibilité, l'adaptation de la mère et l'adaptation de l'environnement. Mais cette adaptation de l'environnement, sa caractéristique principale et fondamentale, c'est qu'elle ne se donne pas comme telle. Elle est estompée, et précisément c'est ça qui est tout à fait fondamental dans ce que dit Winnicott, c'est que, et qui fait que, là aussi ça fait peut-être des différences et du dialogue avec la pensée kleinienne, c'est que pour Winnicott, toute cette première partie-là, en même temps elle est comme effacée. C'est, si j'apporte le sein là où l'enfant est capable de l'halluciner, c'est comme si, pour lui, pour l'enfant, pour sa subjectivité, c'est comme si je ne l'avais pas apporté. Hein? D'accord. Bon. Donc autrement dit, le fait que l'enfant peut se développer grâce à cette présence bienveillante de la mère, c'est quelque chose qui est estompé par la nature même des soins maternels suffisamment adéquats. Alors, là, on peut s'arrêter deux minutes et dire que le tableau d'une adéquation parfaite en trouver créé de Winnicott doit être sérieusement nuancé. Et on peut dire que ce vers quoi on irait plutôt maintenant, c'est vers un travail d'ajustement mutuel. Hein. C'est-à-dire de dire que ça n'existe pas une mère qui place parfaitement le sein là où le bébé est capable de le créer, mais elle le place un petit peu à côté, et le bébé fait du travail, et la mère fait du travail, et ce balai d'ajustement réciproque est quelque chose de tout à fait fondamental. Vous savez qu'on a pu maintenant avoir la certitude qu'une des choses qui caractérisait les interactions précoces, c'était pas l'ajustement parfait. C'était justement tout un travail d'ajustement. Plus de 60% des interactions précoces sont des interactions d'ajustement. On se cherche. Mais ce qui est important, effectivement, alors ça c'est des choses qui sont post-winnicottiennes, mais qui jouent sur son fond, mais qui effectivement vont un peu au-delà, et qui redonnent aussi, qui requalifient aussi, parce que dans le modèle quand même comme ça, c'est l'adaptation de la mère qui fait tout. C'est un peu comme une des choses avec lesquelles je suis un peu en difficulté avec ce qu'on a fait de bien, disons, quand on parle de la fonction alpha, parce que c'est aussi la mère qui transforme. Moi je pense que c'est un travail qui se fait à deux, et que c'est tout aussi important pour le bébé d'avoir le sentiment qu'il transforme sa mère que d'être transformé dans certains de ses états par elle. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui va transmettre à l'enfant l'idée qu'il peut avoir une prise sur le monde, qu'il peut être lui-même un acteur de la transformation, un acteur de son plaisir. Enfin bref, ce sont des sophistications, on pourra en parler si vous voulez dans la discussion. En tout cas, toujours est-il que le modèle premier, il est là. Alors, ce que dit Winnicott, c'est lorsqu'il y a une évolution, et il va y avoir une évolution progressive de la préoccupation maternelle primaire, au bout d'un moment, La mère va d'abord commencer à réinvestir un certain nombre de ses désirs de femme. Le réinvestissement d'un certain nombre de ses désirs de femme, d'épouse, de femme qui a envie de travailler, qui a envie de sortir, qui est plus totalement folle de son bébé, folle entre guillemets, et qui donc va commencer à avoir d'autres investissements que ce bébé, c'est qu'au fur et à mesure que ces autres investissements vont commencer à se développer, la qualité de l'allocation maternelle va petit à petit s'amoindrir. Ce qui fait que le système d'ajustement réciproque entrouvé créé va devenir de moins en moins bon. Et parfois, il va même être mauvais. On peut dire qu'il est, alors on peut dire aussi qu'il est aussi tout le temps suffisamment bon, comme dit Winnicott, c'est-à-dire aussi suffisamment mauvais. Donc ces expériences-là, qui sont des expériences d'échec du trouvé créé, elles sont peut-être là aussi dès le départ. Mais elles sont peu importantes au début, et il y a un moment où elles commencent à devenir un peu plus fréquentes, un peu plus importantes, parce que la mère n'a plus simplement toute la tête à son bébé, et qu'il ben, lui arrive d'être moins adapté, etc. Ce qui est important, c'est ce qui se passe chez le bébé à ce moment. Alors, si l'adaptation de la mère produit chez le bébé une illusion d'autosatisfaction, ça a comme conséquence que la désadaptation de la mère va lui donner l'impression d'être en échec dans cette illusion d'autosatisfaction. Et l'échec de l'illusion d'autosatisfaction va produire chez le bébé, bien d'abord, un sentiment d'impuissance, un sentiment de désarroi, un sentiment de détresse et une réaction agressive à ce sentiment de détresse, à ce sentiment de désarroi, c'est-à-dire que le bébé, là le concept, je crois, qui est le plus adéquat, c'est l'idée que le bébé va être en rage, avec ce que la rage comporte comme connotation d'impuissance. Et une rage qui est une rage destructrice, qui est une rage, on va dire, à tout casser. Et ça, cliniquement, je veux dire, il suffit de voir les bébés, c'est un bébé qui est vraiment, ça part dans tous les sens, les bras, les jambes. C'est aussi ces moments-là où vous, à la limite, vous lui mettez le biberon qu'il appelle dans la bouche, il ne s'aperçoit même plus qu'il a le biberon dans la bouche. Et il faut véritablement, et ça se sent très bien cliniquement, retrouver le contact avec l'enfant pour qu'il accepte. Donc autrement dit, il est dans un état intérieur, et c'est un état de destructivité, pas un état simplement de destructivité, c'est comme s'il avait effectivement détruit quelque chose. Alors détruit son sentiment, c'est détruit sa capacité de s'autosatisfaire, mais c'est au-delà de détruire sa capacité de s'autosatisfaire, le vécu d'une catastrophe mondiale. Le monde est détruit, les grands délires de fin du monde qu'on marque chez certains patients psychotiques semblent effectivement assez... Schreber, par exemple, semble référer à des états précoces de ce style-là. Alors, on en est là, mais vous voyez que ce que dit Winnicott, c'est la destructivité, la frustration, parce qu'il y a bien une forme de frustration, la mère n'est plus aussi adaptée, et la destructivité qui va naître n'est pas un facteur de découverte de la réalité. C'est un facteur, au contraire, de destruction de toute réalité. Donc là, on commence à sentir que la description que Winnicott nous propose est différente de celle à laquelle on pouvait s'attendre avec la métapsychologie psychanalytique classique. Et ce que dit Winnicott, c'est que, et là il introduit du nouveau, c'est que ce qui va être le devenir de cette expérience-là ne va pas simplement dépendre du bébé, mais va dépendre de la réponse de l'environnement à la rage du bébé. Et là, il introduit aussi du nouveau, disons, par rapport à la métapsychologie freudienne classique. Il introduit du nouveau, c'est-à-dire qu'il introduit l'idée que le devenir de l'organisation de la pulsion ne dépend pas que du sujet, mais dépend de l'environnement et des réponses de l'environnement au mouvement du sujet. Autrement dit, il introduit ici quelque chose qui est une révolution épistémologique, une révolution paradigmatique, c'est que l'organisation de la pulsion ne dépend pas seulement du sujet, mais dépend de la dialectique qui s'établit entre l'élan pulsionnel du sujet et la réponse de l'environnement. Alors quand on regarde d'un peu près, on peut penser qu'effectivement c'était dans le modèle de la pulsion, puisqu'au fond, dans le modèle de la pulsion de Freud, il y a quatre termes, hein. Il y a la source, la poussée, le but et l'objet. C'est-à-dire qu'il y a l'objet. Mais, dans la métapsychologie traditionnelle, cet objet en question, c'est un objet interne, c'est une représentation interne de l'objet. À partir du moment où on essaye de faire la filiation de cette représentation interne de l'objet, à partir du moment où on commence à penser que cette représentation interne de l'objet hérite en quelque sorte d'une ancienne relation à l'objet, on s'aperçoit que dans le montage de la pulsion de Freud, c'est ce qui fait qu'il y a une certaine compatibilité quand même, dans le montage de la pulsion de Freud, il y a bien quand même, d'une certaine manière, la présence de l'objet. Sauf que on prend le problème en termes d'objet intériorisé, interne, de représentation d'objet, alors que Winnicott le situe dans le temps d'avant, c'est-à-dire dans le temps de la rencontre avec la réponse de l'objet. Alors, là aussi, vous voyez pourquoi c'est considérable. Parce que quand vous avez un sujet qui a une destructivité extrêmement importante, si votre théorie de la pulsion et que cette destructivité véritablement importante, ça vient de sa pulsion, et que sa pulsion, c'est quelque chose qui a un ancrage biologique, un ancrage qui est lié uniquement à ses caractéristiques propres, vous êtes démunis cliniquement. Comment vous allez interpréter vous allez aussi dire, ah ben, qu'est-ce que vous êtes destructeur, hein? On ne fait pas avancer beaucoup les choses. Avec l'hypothèse de Winnicott, on a un pas de plus. C'est que l'intensité de destructivité du sujet va être mise en lien avec les modalités de réponse à la destructivité du sujet. Et à ce moment-là, on commence à avoir une scène intersubjective qui se dresse avec les aléas possibles de ces rencontres-là. C'est-à-dire qu'on peut, pousser, on peut faire un pas de plus pour l'analyse, et ce pas de plus-là, il est déterminant. Parce qu'il va permettre aussi de desserrer les taux, alors que lorsque la pulsion n'est référée qu'au sujet, eh bien, il a affaire avec sa pulsion telle qu'elle est, et puis il ne peut pas en faire grand-chose de plus que ce qu'il en fait. Donc on a quelque chose qui a quand même un enjeu clinique qui est assez considérable. Alors, que dit Winnicott par rapport à ce devenir de la destructivité? Winnicott, en gros, souligne que il y a trois réactions possibles de l'environnement. Il y a les réactions qui sont des réactions de retaliation, des réactions de représailles. Et ça, dit Winnicott, ça n'est pas survivre. Alors, les deux types de réactions de représailles qu'il y a, ça peut être une représaille du côté de la violence, ou une représailles du côté du retrait. Là, encore une fois, la vie familiale fourmille d'expériences qui nous montrent ce qu'il veut dire. Bébé est en rage, il fait chier, on n'arrive pas à dormir, je le mets au bout de l'appartement de façon à ne pas l'entendre. C'est du côté de la représailles. Tu piailles, eh bien, je te laisse tomber, je t'abandonne. On a aussi une forme de représailles qui est du même style, c'est des parents qui se mettent à crier encore plus fort que l'enfant. Alors, un effet d'amplification tout à fait considérable, c'est comme si la pulsion revenait à l'enfant en écho de la part de ses parents, mais considérablement amplifiée, et avec les effets, ce qui produit une terreur, ce qui va produire effectivement des mouvements de défense contre la vie pulsionnelle, puisque la pulsion devient incontrôlable, devient immaîtrisable, et est même considérablement amplifiée par l'expression de la pulsion. Donc effectivement, à ce moment-là, vous allez aller du côté de la répression de la pulsion, si l'expression de la pulsion ne traite pas la pulsion, mais au contraire, l'amplifie jusqu'à la terreur. Et puis alors vous avez donc... alors là, c'est sur le modèle, c'est pas un enfant qui va faire la loi ici. Et on va bien voir qui est le plus fort. Ça se joue à plein de niveaux, ça. Il y a un article dans la revue Devenir qui est... fait frémir, mais on a aussi des petits exemples comme ça dans les merveilleuses cliniques de Selma Freiberg dans Le fantôme dans la chambre d'enfant, ou plutôt dans l'autre article qui est sur quelques mécanismes de défense précoce, qui est aussi sorti dans Le Devenir. Mais l'article auquel je faisais référence, c'est un article d'Infant Hoffman, Fried, qui malgré son nom est manifestement espagnol, et qui a étudié le rapport de force mère-bébé au corps à corps, et qui montre comment, dans certains cas, le bébé n'a pas d'issue parce que les adultes sont plus forts que lui, parce que les mères sont plus fortes que lui, et que les mères ont toute une série de comportements et de pratiques jusqu'à casser la volonté propre de l'enfant. Alors ça peut se jouer par le fait qu'il ne faut pas qu'il prenne, le fait qu'on va lui immobiliser la main, on va le mettre dans une situation de passivation telle qu'il ne peut que se rendre pour survivre. Donc, vous voyez ces formes de rétorsion. Alors là, bon, on n'est pas dans un monde Walt Disney, hein, on est dans le monde de la réalité. Dans le monde Walt Disney, c'est maman, bébé cadom, tout le machin comme ça, c'est la publicité télévisée, mais dans le monde de la réalité, alors là, nous ne sommes pas dans des civilisations qui aiment les bébés. Nous sommes dans des civilisations qui les maltraitent. Et qu'avoir d'abord le peu de temps qu'on laisse aux mères pour. C'est quoi, c'est 3 mois, hein. C'est un arrachement pour les mères quand ils vont partir au travail. Donc ça, c'est la réponse sociale massive et monumentale. Et puis alors ensuite, notre appareillage de crèche, toute notre civilisation, la manière dont on traite les bébés dans les maternités, comment on met les bébés au sein, enfin vous pourriez aller de tous les côtés. On n'aime pas les bébés, on n'aime pas beaucoup les bébés, hein. On les traite un peu au karcher, comme selon l'expression consacrée. Bon. Voilà, donc ça c'est pour dire que les rétorsions, ça existe. La deuxième modalité de rétorsion, c'est la rétorsion du côté du retrait. C'est une forme de rétorsion. Le bébé est en rage. La mère qui commençait à avoir un élan, c'était une belle journée de printemps, elle avait laissé son petit bonhomme ou sa petite bonne femme à sa mère, c'était sa première grande sortie, elle a vu cette jolie petite robe noire comme ça, vous savez, c'est une nouvelle. Elle a pris du temps pour les essayer, enfin, elle a un peu oublié qu'il fallait qu'elle rentre pour la tétée, elle est en retard, quand elle rentre, sa mère a une gueule qui lui dit « t'as vu le type de mère que t'es, t'as vu l'heure qu'il est, bon voilà ». Le bébé, alors elle lui dit « mais alors, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il n'arrête pas d'hurler ». Et là, culpabilité, sentiment de culpabilité. Est-ce que je suis une mauvaise mère si je me laisse aller à mes désirs de femme? Si je réinvestis tout ça, est-ce que ça veut dire que je... Donc, sentiment de culpabilité de la mère, et alors avec toute la scène telle qu'elle est, les scènes qui sont appelées derrière, c'est quoi? C'est la scène de l'adolescente qu'elle était. La scène de l'adolescente qu'elle était, qui connaissait ses premiers émois amoureux, qui faisait qu'elle arrivait en retard, qui faisait que quand elle arrivait en retard, la gueule de sa mère lui disait « mais t'es passé où? Qu'est-ce que t'as donc fait pendant tout ce temps où t'es pas rentré ?» Donc autrement dit, ce qui se réactive dans ma relation avec le bébé, c'est aussi son rapport adolescent à la tyrannie de ses parents, à tout ce qu'il a fallu conquérir sur eux pour avoir le droit à sa vie sexuelle. Or tout ça, il faut le reconquérir par rapport au bébé, qui se présente alors comme une espèce de tyran, au niveau des représentations de la mère, comme une espèce de tyran qui veut... garder cette mère à lui tout seul. Bon. Et la mère peut donc soit se révolter, et là on va avoir des représailles, soit au contraire, se soumettre, et à ce moment-là, dans une soumission dépressive, je croyais qu'avec mon adolescence, je m'étais sorti de cette dépendance, de cette maîtrise de l'autre, et je découvre que plus ça avance, plus je retombe dedans. Et à ce moment-là, d'un seul coup, ce qui tombe sur la gueule des parents, des mères, des pères aussi, c'est « bon sang, j'en ai pris pour 20 ans ». Mais parce que c'est ça qui vous saisit d'un seul coup. C'est que, vous voyez, à partir du moment où vous avez un bébé, ben c'est plus du tout, ça ne peut plus être comme avant. Alors au début, c'est la lune de miel, c'est estompé tout ça. Et puis à un moment donné, quand on commence à avoir envie de retrouver un certain nombre de désirs qui ne sont pas ceux du bébé, qu'on se demande à sentir quel effort de tyrannie, effectivement, comporte ça. Et quand j'ai dit que j'en ai pris pour 20 ans, vous voyez bien l'allusion, effectivement, à quelque chose qui est vécu comme une prison. Alors bon, deuxième mode de réaction. Et là, je pense que personne n'est exempt de la première réaction sous la forme de représailles. Je pense que personne n'est exempt de la deuxième réaction sous la forme de retrait. Ce qui se passe de mieux pour le bébé, c'est quand il y a quand même aussi suffisamment de la troisième forme de réaction. Et la troisième forme de réaction, c'est une réaction, on pourrait dire, qui est de dire, oh, attendez, c'est pas la fin du monde, il pleure, j'étais pas là, j'étais un peu en retard, mais enfin, il a survécu, le bébé. Et l'objet qui pense que le bébé va survivre à sa rage, à sa haine, est un objet qui commence à être en mesure de pouvoir survivre lui-même à la rage du bébé. Et là, il y a quand même quelque chose de tout à fait intéressant qui se produit, et qui est le vrai sens de ce que ça veut dire que survivre. C'est qu'il va falloir, avec un bébé qui est en rage, qui est en colère et en rage depuis un certain temps, il va falloir inventer la modalité de reprise de contact avec lui. Et ça, c'est nouveau. Avant, en quelque sorte, la question ne se posait pas, ou se posait peu. Là, elle commence à se poser. Et on pourrait dire que survivre, être vivant pour un bébé, c'est le témoignage qu'on en a, c'est cette créativité qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir effectivement reprendre contact avec ce bébé. Et là, on s'aperçoit que c'est là que la question du degré du sens de culpabilité de la mère va être importante. Si la mère se sent trop coupable, elle va être en grande difficulté pour se sentir suffisamment vivante, suffisamment libre, pour retrouver ce contact avec le bébé. Si sa culpabilité existe suffisamment, mais reste modérée, et, mais suffisamment quand même, mais reste modérée quand même, à ce moment-là, elle va trouver la manière de rétablir ce contact. Et, nous dit Winnicott, il se passe quelque chose d'extraordinaire pour le bébé si la mère est capable de reprendre contact avec lui. Et c'est exactement, donc, si la mère est capable de survivre. Ce que le bébé découvre à ce moment-là, c'est que là où il croyait qu'il avait tout détruit, là où il croyait qu'il était à l'origine de sa propre satisfaction et qu'il avait détruit ses capacités de satisfaction, il découvre qu'il n'est pas à l'origine de sa propre satisfaction, mais que celle-ci vient d'un autre sujet. J'aime pas beaucoup les formulations en termes d'objet total, parce que je ne sais pas bien ce que c'est qu'un objet total, parce que je ne suis pas sûr qu'un bébé, dans ses âges précoces, soit capable de saisir ce qu'est la complexité de la mère. Par contre, ce qui me paraît être essentiellement engagé dans cette expérience-là, c'est la découverte du fait qu'il y a un autre sujet. Que je ne suis pas le seul sujet de la satisfaction. Et c'est cette découverte de l'autre sujet qui me paraît être le point fondamental. C'est-à-dire découverte, c'est une découverte, c'est une révolution subjective que de découvrir que je ne suis pas le seul acteur, le seul agent, mais qu'il y a un autre désir, une autre volonté, un autre appareil psychique, et que cet autre appareil psychique, il est relativement indépendant de moi. C'est ça la découverte de l'autre sujet, et je pense que ça c'est tout à fait fondamental. Et je crois qu'effectivement, c'est là aussi, ou d'une certaine manière, c'est un concept dont nous avons besoin dans toute une partie de la clinique de l'extrême et des cliniques archaïques. C'est que ce qui manque aux états archaïques, c'est précisément cette idée qu'il y a un autre sujet possible. Un sujet. Alors s'il y a un autre sujet possible, ça veut dire qu'il y a des sujets de recours. S'il n'y a pas d'autre sujet possible, ça veut dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'objet. Tout ce qu'on va travailler au niveau de la manipulation, l'instrumentalisation, etc., de l'autre, qu'on a dans la perversion, qu'on a dans... ce sont des modalités de rencontre avec l'autre qui ne reconnaît pas. C'est pour ça que ce n'est pas une question de perception. C'est pas qu'on ne reconnaît pas l'autre. C'est qu'on ne reconnaît pas que l'autre est un autre sujet avec ses désirs propres, avec sa volonté propre. Et bien sûr, alors, là, je dois dire que ce que Lacan a pu évoquer sur le désir du désir me paraît être d'une extraordinaire pertinence. Et à partir du moment où il y a cette rencontre et cette découverte du fait qu'il y a un autre sujet, la question qui s'ouvre, c'est la question du désir d'autre sujet. Et c'est la question de ce qu'on désire concernant son désir. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui cliniquement est tout à fait important. Voilà. Je me suis un peu laissé embarquer.
C'est pas grave.
Bon. Alors.
On survit.
Bon. je continue alors. Alors, conséquence, donc, première conséquence, la différenciation moi ou sujet, autre sujet. Moi non moi, mais pas moi non moi. Moi sujet, autre sujet. Deuxième conséquence, c'est que le bébé découvre qu'une partie de sa satisfaction dépend du désir de cet autre sujet. Donc, découverte de la dépendance. Ça ne veut pas dire que la dépendance, elle n'était pas là, mais subjectivement, elle n'était pas perçue. À partir du moment où le sujet découvre qu'il y a un autre sujet, à ce moment-là, la dépendance est perçue. Et à partir du moment où il y a la dépendance qui est perçue, vous comprenez que c'est aussi une blessure pour le bébé de découvrir qu'il dépend de la volonté d'un autre. Alors, conséquence aussi, il va développer toute une série de modalités d'action sur le désir de l'autre. Et on va voir se développer de plus en plus des communications intentionnelles. Le bébé va commencer à apprendre comment agir sur sa mère, et ça devient important d'agir sur sa mère, parce que ça devient important d'agir sur le désir de sa mère. Et c'est là où on voit comment les enfants qui vont développer. C'est extraordinaire séducteur, les bébés, dès l'origine. Hein, ça. Mais alors là, vraiment, ils vont multiplier, chez les petites filles, chez les petits, même les petits garçons, vous allez voir multiplier une habileté de séduction, parce qu'effectivement, il faut arriver à convaincre l'autre d'avoir le désir qui correspond au vôtre. Mais, autre conséquence, si je dépends de l'objet pour ma satisfaction, ça veut dire que je suis blessé par cette dépendance, mais ça veut dire aussi que donc, l'objet peut être absent. Et à partir du moment où il est absent, ça va mobiliser une certaine agressivité à l'égard de cet objet absent, agressivité qui est liée au fait qu'il me fait sentir à quel point je suis dépendant de lui quand il n'est pas là. Alors là, Winnicott a des formules assez extraordinaires. Objet, tu survis, je t'aime. Je poursuis par oui, mais je t'aime, ma satisfaction dépend de toi, je dépends de toi, tu me manques, je te hais. Et vous voyez qu'à ce moment-là, la haine ou l'hostilité ou l'agressivité devient une conséquence de l'amour. Vous voyez, c'est pas du tout ce qui se produit lorsque cette expérience-là n'arrive pas à s'organiser, parce que lorsque cette expérience-là n'arrive pas à s'organiser, il y a un vécu de destruction. Il peut y avoir une maîtrise du vécu de destruction. Je peux me mettre à détruire par impression de ne pas pouvoir faire autrement que détruire. C'est ces gamins dont on voit qu'ils se mettent à casser, mais ils ne se mettent pas à casser parce qu'ils ont envie de casser, ils se mettent à casser parce qu'ils vivent, qu'ils ne peuvent pas faire autrement que casser, et donc qu'ils cassent délibérément pour avoir au moins la maîtrise de ce qu'ils cassent. Ce que Freud avait remarquablement mis en évidence dans son article qui s'appelle « Les criminels par sentiment de culpabilité ». Et Freud disait à ce moment-là, si les gens tuent, c'est pas, ils ne se sentent pas coupables parce qu'ils tuent, c'est parce qu'ils se sentent coupables qu'ils tuent. Et c'est donc une maîtrise, en quelque sorte, d'un sentiment de culpabilité harcelante qu'on ne peut pas éviter, qui fait qu'on va se mettre à faire des bêtises, on va se mettre à commettre des crimes pour au moins tenter de cerner quelque chose d'une culpabilité incernable. Ce qui se passe au niveau de la destructivité, c'est de cet ordre-là. Si j'ai détruit, sans savoir comment ni pourquoi, ou simplement par mon être en rage, qui était déjà une réaction au fait que j'avais le sentiment d'avoir détruit ma propre capacité de satisfaction, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre face à cette destructivité, si ce n'est en devenir délibérément l'agent. Vous voyez que là, il n'y a pas d'ambivalence. Hein? Destructivité, maîtrise de la destructivité, destructivité produite pour maîtriser la destructivité vécue passivement. Alors que dans la conjoncture que je suis en train de décrire là, j'aime l'objet, je reconnais ma dépendance à l'égard de cet objet, mais cette dépendance est blessante et j'ai des mouvements agressifs à l'égard de l'objet parce que la dépendance que je ressens à l'égard de l'objet me blesse. Et toutes les fois que l'objet me fait sentir que je suis dépendant de lui, je suis blessé et ça mobilise. Donc la haine, l'agressivité est une conséquence de l'amour. Magnifique phrase de Sacha Guitry. Tu me détestes trop, tu dois m'aimer encore. Et à quel point ? Et à un moment donné, l'expression de l'agressivité parle de l'amour. Alors l'amour déçu, parce que l'objet n'est pas tout le temps là. Donc on va voir que une des conséquences, c'est l'organisation du conflit d'ambivalence. Le conflit d'ambivalence dépend, en quelque sorte, d'une survivance suffisante de l'objet, du fait d'avoir découvert que l'objet était un autre sujet, et d'avoir découvert que du même coup, on était dépendant de cet objet-là. Mais, alors là, il y a une chose tout à fait intéressante. Tout à l'heure, le problème de la survivance, c'était je détruis l'objet et je découvre qu'il survit. Là, le problème, il est à l'intérieur de moi. J'ai mon amour pour l'objet, et mon amour pour l'objet me conduit à la haine, à la destructivité. Est-ce que quand je sens la montée de colère à l'égard d'un objet absent, est-ce que cette montée de colère va détruire mon amour pour l'objet? Ou est-ce que l'amour pour l'objet va survivre à ma colère liée à l'absence de l'objet? Et là, on voit qu'on n'est plus dans ce que formule Winnicott. Là, on est dans les conséquences qu'il nous faut tirer, la manière dont on va faire travailler le modèle de Winnicott dans toute une série de circonstances. Nos conflits d'affect posent tous le problème de savoir comment un affect survit à la présence d'un autre. J'aime l'objet, bien. Est-ce que je suis en colère contre l'objet? Très bien. Est-ce que je suis obligé de m'écarteler? Quand j'aime l'objet, je suis tout amour. Quand je suis en colère contre l'objet, je suis toute colère. Ou est-ce que ça peut coïncider en moi? C'est-à-dire, est-ce que la présence de la colère va détruire l'amour, ou est-ce que la présence de l'amour va annihiler toute possibilité de colère? On est en plein dans des cliniques. J'imagine que vous avez tous des tas de cliniques qui vous viennent à l'esprit. C'est les gens qui sont soit à leur côté borderline, je ne veux rien sentir de l'amour que j'ai pour l'autre, parce que si je sens l'amour que j'ai pour l'autre, je ne peux plus sentir ma colère. Soit, côté névrotique courant, comment? Mais non, moi je suis tout amour pour mon objet. Oh ben, oui, d'accord, et je lui ai fait un croche-patte, mais c'était complètement involontaire. Hein. Ou j'ai eu très très peur qu'il lui arrive un accident quand il n'était pas là. Mais vraiment, vous croyez que ça peut être en lien avec mon agressivité? Oh non, oh non. Non, c'est parce que je l'aime beaucoup que je crains qu'il meure tout le temps, toutes les 5 minutes. Hein, et que je suis toujours en train de le prévenir, comme ça, fais attention, fais... Et là, on voit bien que l'amour est mis en avant, et qu'au contraire, ce qui est refoulé, alors que côté névrotique, mise en avant de l'amour, refoulement de l'agressivité, et côté ce qu'on appelle les organisations borderline, pour dire vite, comme ça, problématique narcissique, où c'est au contraire, il y a une mise en avant de l'agressivité, et au contraire, un refoulement de l'amour. Et c'est très très important, effectivement, à ce moment-là, de ne pas oublier que tu me détestes trop, tu dois m'aimer encore. Il y a bien de l'amour qui doit être là quelque part. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, le modèle de Winnicott, il commence à s'appliquer aussi à l'intérieur de ce qui se passe sur le sujet. Est-ce qu'un processus va survivre à un autre? Alors ça, c'est extrêmement important pour le développement psychique, parce que si on a droit qu'à un seul processus, si on a droit qu'à un seul affect, alors à ce moment-là, il n'y a plus de capacité de symbolisation. La symbolisation, c'est la capacité de faire des liens, de faire travailler des espaces de tension, de faire travailler des conflits. Il n'y a plus d'organisation de conflictualité possible si un mouvement ne survit pas à un autre. Donc ça, on voit qu'on a déjà une première matrice de la conflictualité, de sa régulation, qui obéit aussi au même modèle. Autre modèle, qu'est-ce qui fait que ma haine ou mon agressivité pour l'objet va néanmoins laisser mon amour pour l'objet suffisamment survivre? Une des choses qui fait ça, c'est l'intensité de la colère que j'ai contre l'objet. Si quand l'objet manque, ce manque de l'objet me met dans un tel état que je suis dans une menace d'annihilation, l'amour pour l'objet va être bien menacé. Hein. C'est ce qu'on peut avoir peut-être dans certains états autistiques, où le manque est tellement important et tellement insupportable qu'à ce moment-là, je me coupe du lien avec l'objet pour plus avoir à subir ce manque-là et pour plus avoir à éprouver ces vécus agonistiques extrêmes. Donc, une des choses qui est tout à fait importante, c'est quelle est l'intensité de la colère, l'hostilité ou de l'agression concernant l'objet, quand l'objet manque, quand il est absent. Vous voyez, j'évoquais tout à l'heure une dialectique, une métapsychologie de la présence et de l'absence, on est au cœur de cette dialectique-là. Alors, c'est une chose qui est tout à fait importante, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'objet est absent ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des enfants qui, lorsque l'objet est absent, sont dans un tel état, en quelque sorte, que ça les désorganise complètement, et qu'est-ce qui fait que d'autres, ils vont développer des auto-érotismes palliatifs ? Comment est-ce que les auto-érotismes de... Alors, moi, je dis bien des auto-érotismes, pas des auto-sensualités à ce moment-là, mais bien une capacité auto-érotique, c'est-à-dire une capacité de garder suffisamment de présence de l'objet quand l'objet n'est pas là. Et d'avoir un commerce avec une représentation ou un représentant interne de l'objet suffisamment apaisant pour pallier en partie à l'absence de l'objet et faire en sorte que l'absence de l'objet ne soit pas une catastrophe absolue. Alors, c'est le développement des auto-érotismes. Et là, on va retrouver la même problématique. Et là, il y a de nouveau un apport tout à fait essentiel de Winnicott, ce que Winnicott a introduit autour de ce qu'il appelle la capacité d'être seul en présence de l'autre. Alors, c'est aussi une notion complètement clé. Capacité d'être seul en présence de l'autre, alors, ça se joue dans la première enfance de la manière suivante, mais c'est aussi une question qui va être une question clé de l'espace thérapeutique. Dans l'espace thérapeutique, les objets, les sujets qui ne sont pas capables d'être seuls en présence du clinicien que nous sommes, ça va avoir toute une série de conséquences sur l'organisation même de l'espace. Bon, par exemple, vous voulez allonger un patient et être derrière lui, s'il n'a pas de capacité d'être seul en votre présence, vous allez devenir un objet complètement persécutif pour lui. Et vous allez être sans arrêt menacé de, si vous êtes trop silencieux, c'est que vous l'avez abandonné. Si vous êtes un tout petit peu intervenant, c'est que vous êtes intrusif. Et vous avez le couple là, qui est un des couples qui rend extrêmement difficile la situation analytique avec les problématiques narcissiques, c'est qu'on est sans arrêt entre première impasse, suffisamment discret, je suis abandonnant, suffisamment intervenant, je suis intrusif. Et on est sans arrêt en train de...
C'est ce que j'aime appeler le syndrome corse.
Oui.
On en fait trop.
Ouais. Astérix. Oui. Comment ma sœur Voilà, c'est ça. Bon, et on voit bien. Et ça, c'est les effets de l'incapacité d'être seul en présence de l'autre. Ou alors, c'est les gens que vous avez en face à face, ils sont soit complètement à vous éviter totalement, et alors, au bout d'un moment, vous vous demandez même si vous êtes là, soit alors, ils vous quittent plus des yeux et vous n'avez plus l'espace intérieur pour penser un peu tranquillement parce que l'autre est sans arrêt sur vous. Bon. C'est ce qu'on va voir aussi dans les comportements, les équivalents dans la vie de tous les jours. Alors, Winnicott, là, nous dit quelque chose qui est tout à fait important, c'est qu'il dit qu'entre absence et présence, il y a une expérience intermédiaire qui est tout à fait importante, et qui est aussi une expérience de survivance de l'objet. Alors, cette expérience de survivance de l'objet, comment elle se joue ? Vous avez un petit bonhomme, une petite bonne femme, mettons que ça se passe au salon, madame est en train de lire, alors elle ne lit pas un livre d'un grand philosophe ou d'un grand psychanalyste. Elle lit plutôt elle ou Marie-France. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il faut que ça l'intéresse un peu, qu'elle ait ses désirs qu'elle soit accrochée, mais il ne faut pas que ça l'intéresse trop. Si ça l'intéresse trop et que ça requiert toute son attention, elle lâche de la pensée trop profondément à l'enfant. Et le petit bonhomme ou la petite bonne femme, il est là avec chez Lego, sa Barbie, enfin tout ce qu'on veut. On va imaginer un enfant, mettons, de 13-14 mois. Hein. À quoi joue l'enfant ? Il joue à maman. C'est-à-dire qu'il est en train, dans son jeu, d'organiser un processus par lequel il met en scène quelque chose où il est à lui-même sa propre mère. Le narcissisme secondaire, dit Freud, est repris à l'objet. Dans le jeu, l'enfant est en train de mettre en scène comment il s'approprie quelque chose des qualités de ce que l'objet lui a donné. Mais, voyez la situation, l'objet est là. Et lui, il est là avec sa représentation interne, en train de jouer avec une représentation interne de l'objet, qui est un palliatif de l'objet. Or, l'objet est là. La question qui est posée, c'est... Qu'est-ce que ça fait à l'objet que j'intériorise l'objet ? Est-ce que l'objet va survivre à mon intériorisation de l'objet ? Et alors là, regardez ce qui se passe et vous allez voir à quel point c'est pertinent. Vous avez, je le disais tout à l'heure, rétorsion, retrait. Hein, vous vous souvenez. Du côté de la rétorsion, la mère pose son pressant que l'enfant est en train de tenter d'introjecter quelque chose d'une fonction maternelle. Elle pousse son mari clair, elle pousse son elle, mais non, c'est pas comme ça, mais enfin, tu... Et elle intervient dans le jeu de l'enfant et elle entrave quelque chose du jeu de l'enfant. Ce qui communique à l'enfant très clairement le message suivant: pas d'introjection maternelle en ma présence. C'est moi la mère ici, nul autre que moi, c'est moi qui sais. Et puis vous avez la deuxième réaction du côté du retrait. Alors là, je me plonge dans un truc d'Heidegger ou de Kierkegaard. Toute la concentration est là-dessus. Alors vous avez le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui fait ce va-et-vient dans le regard entre son jeu et puis le visage de sa mère. Et sur le visage de sa mère, blackout, elle est complètement ailleurs. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, il arrête de jouer et il va la chercher. Mais fous-moi la paix, enfin, tu vois bien que je suis en train de lire. Bon. Ou bien alors, je pose mon livre, mais lui, il ne peut plus jouer, de toute façon. Autrement dit, encore une fois, c'est la clinique de la vie quotidienne, ça, on n'est pas... je veux dire, encore une fois, vous allez dans les familles, vous regardez ce qui se passe, des scènes comme ça, vous en avez plein. Et c'est là que se joue... Alors, troisième possibilité, la survivance de l'objet. Hein. C'est-à-dire... la mère jette un petit coup d'œil et est en train de découvrir que l'enfant est en train de jouer à « T'as vu, j'approprie ma mère, je m'approprie ma mère. » Elle est là et... Alors c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas ne pas sentir que chacun des progrès que fait votre enfant, c'est un pas qu'il est en train de faire vers la séparation. Et ça commence tout de suite, très tôt. Donc, bah, il y a une petite flexion dépressive chez la mère. Et en même temps, elle est fière parce que son enfant est en train de conquérir quelque chose. Donc, vous voyez, la conflictualité de la mère. Qu'est-ce qui va survivre de cette conflictualité-là chez elle? Est-ce qu'elle va être suffisamment fière pour dire, ben oui, c'est comme ça, hein, tant pis pour la petite flexion dépressive, je suis plus fière que déprimée par son progrès? Ou bien est-ce qu'au contraire, elle va être plus déprimée que fière par le progrès, et qu'à ce moment-là, il va y avoir quelque chose où l'enfant va sentir qu'il atteint trop sa mère à travers son progrès? Encore une fois, vous voyez ce que j'essaie de dire et qui me semble vraiment impliqué par Winnicott, c'est que on joue pour de vrai dans la vie. On croit que les choses se déroulent comme ça, avec des petites choses incidentes. Mais en un seul coup, on a un enfant, il est en train de jouer, il ne s'est rien passé, et on voit qu'il est en train de se déprimer. Alors on se dit, ah, il se déprime. Non, il se déprime parce qu'il vient de percevoir chez sa mère quelque chose de l'effet de son propre jeu. Il l'a interprété comme une réponse à son propre jeu. Alors parfois il se trompe, parfois c'est pas une réponse, parfois la mère est déprimée parce qu'elle a un salaud de patron qui l'emmerde. Et ok, ça arrive qu'on se trompe aussi, mais les enfants perçoivent. Là les mères peuvent lui dire, bah oui maman est un peu triste, hein, tu sais elle a des difficultés avec son patron. Elle peut dire quelque chose. Et puis elle peut aussi ne rien dire et à ce moment-là laisser l'enfant penser que ce qu'elle vit est en rapport avec ce qu'il est en train de mettre en scène. Moi, je crois quand même que les enfants s'y trompent peu. Je crois beaucoup à la capacité des enfants de se... Je crois qu'il y a des dialogues qui se jouent envers... Je raconte. C'est encore une petite histoire pour voir ça et puis... Du côté de la déception, mais... Peut-être c'est aussi parce que c'est important de voir comment on a des situations traumatiques absolument pas spectaculaires et profondément traumatiques qui se mettent en place. Je vous parle un peu de Peter Pan, puis je m'arrête. Ça va ?
D'accord.
Si vous voulez, on reparlera des anneaux tout à l'heure. Peter Pan, c'est le gosse qui habite au pays de Jamais Jamais. Au pays de Jamais Jamais, vous avez un seul adulte, le capitaine Crochet. C'est un type odieux. Il n'aime pas les enfants, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa relation avec les crocodiles, mais enfin, il a qu'un crochet. Bon. Peter Pan, lui, avec la petite fée Clochette, il est au pays des enfants. Alors, au pays de Jamais Jamais, c'est le pays des enfants déçus du monde adulte. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un adulte comme le capitaine Crochet dedans. Ben là, il va aller un peu voir ce qui se passe du côté des enfants qui ne sont pas encore les déçus du monde adulte. Et il se balade au-dessus de l'ombre, et là, il a une histoire avec son ombre, hein, bien sûr, du côté du double, c'est pas l'ombre de l'objet qui est tombé sur son moi, c'est l'ombre, c'est son ombre qui est tombé sur l'objet qui s'est déchiré. Mal foutu, quelque chose comme ça. Bon. Enfin bref, il se balade sur Londres, il a un problème avec son ombre, il va voir, comment est-ce qu'elle s'appelle la petite, donc c'est Wendy, hein. Il va voir Wendy, il rentre chez elle, ils font connaissance, elle lui répare son ombre, il lui dit, bah, écoute, viens faire un tour au pays des Jamais Jamais, Wendy, c'est une petite fille, elle aime bien son papa, elle aime bien sa maman, elle a un petit frère, c'est tout bien, sympa, il n'y a aucune raison qu'elle aille au pays des enfants déçus par le monde adulte. Pas de problème. Exit Peter Pan. Après, deuxième scène, papa et maman reviennent du spectacle. Et là, il y a la fameuse scène, celle là où les Athéniens s'atteignirent, la scène de l'huile de foie de morue. Le petit frère de Wendy doit prendre sa cuillère d'huile de foie de morue. Enfin, ou un truc, vous savez, ce truc paradoxal, c'est mauvais au goût, mais c'est bon pour la santé, il faut dépasser la perception immédiate du mauvais pour arriver au concept du bon. Alors, c'est un peu compliqué pour les gamins, il est confronté à ça, le petit, et Wendy, qui fait une alliance tout à fait positive avec son père, lui dit, papa, montre-lui l'exemple. Et là, on commence à trouver qu'il y a un truc un peu pas très clair qui se passe. Et le père, il a aussi une potion, c'est pas l'huile de foie de morue, mais c'est aussi une machin du même truc, c'est-à-dire c'est dégueulasse au point de vue du goût, mais c'est bon pour la santé. Et là, le père dit, oui, non, mais la bouteille, elle a disparu, on ne sait plus où elle est. Et Van dit, oh, mais papa, moi je sais où elle est, je l'ai retrouvée. Et là, on s'aperçoit qu'elle l'a retrouvée dans un endroit étrange, dans lequel les bouteilles ne vont généralement pas seules. Vous savez, du style fond d'un placard, okay. Elle va lui chercher, elle lui donne, et là, on est devant la scène fondamental, c'est-à-dire, quand je dis, ben, c'est donner l'exemple, hein, c'est-à-dire l'instauration, la paternité symbolique qui doit être là, ce que le père doit accepter comme sacrifice de son désir personnel, en tant qu'il est une fonction symbolique pour ses enfants. Il prend sa bouteille, solennellement, il met le liquide dans la cuillère, il s'approche de sa bouche, il prend le chien et il le fait boire au chien. Et Wendy lui dit simplement, « Oh, papa, il ne s'est rien passé. On va quand même pas faire un procès à cet homme-là pour un truc pareil. » Sauf que la fois d'après, quand Peter Pan revient, Wendy part avec lui. Et la seule différence qui s'est passée entre les deux, c'est qu'il y a eu la faillite d'une fonction symbolique. Alors, je disais ça simplement pour expliciter ces situations de micro-traumatisme tout à fait essentielles. Alors, c'est compliqué parce que ça ne se repère pas, parce qu'il n'y a pas d'abus sexuel, parce qu'il n'y a pas de viol, parce que ça ne va pas produire quelque chose de tout à fait spectaculaire qui fait qu'on va crier au scandale. Mais simplement, il y a impossibilité de la capacité d'être seul en présence de l'autre parce qu'il y a une mère, un père qui intervient. Parce qu'il y a un enfant qui est trop inquiet aussi éventuellement par rapport à la qualité de ses intériorisations, qu'il est obligé d'aller toucher sa mère et qu'il va à son tour l'intruser dans sa propre... Vous voyez, c'est toute chose-là. Voilà, alors, bah, écoutez, voilà les quelques aspects de la problématique de la survivance. Je m'arrête là parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Merci.
Merci infiniment pour cet exposé si brillant, si brillant. Je crois que nous avons besoin d'un moment de digestion. C'est la pause. Et je crois qu'on peut prendre notre temps plein de pause, c'est-à-dire une demi-heure, et se retrouver. Non ? Oh. 20 minutes, là, on ne peut pas faire moins, je crois. Bon, alors, dites-moi 10 précises. 10 précises.